France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Natacha Polony, Gilles Finkelstein, on va commencer avec cet événement mardi dernier à Aix-la-Chapelle. Emmanuel Macron et Angela Merkel signaient un nouveau traité franco-allemand 56 ans après le traité de l'Elysée conclu entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Et on a vu circuler l'idée que l'Alsace ou la Lorraine seraient vendues à l'Allemagne, encore que la France devrait partager son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutez la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, et le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.
Ce que dit ce texte, c'est que demain, nous allons être obligés de nous coordonner avec l'Allemagne pour déterminer une position commune. Eh bien, c'est un abandon de souveraineté, c'est un abandon de notre liberté de peuple et de nation.
Ce traité organise la soumission de la politique étrangère, diplomatique et de défense de la France à l'Allemagne.
Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, Gilles Finkelstein ?
Eh ben, écoutez, je vais vous dire, moi, je me refuse à entrer dans ce débat sur les fake news. À la fois à répondre aux fake news qu'on vient de voir, ça a été fait et ça a été bien fait par les médias. Et même, je vais en dire peu sur les fake news eux-mêmes. On sait qu'il y a le développement d'une idéologie complotiste qui est une vraie vision du monde avec ses vecteurs, ses médias, ses grands prêtres, son public. Je trouve insupportable cette addition, cette multiplication même de balivernes, de fantasmagories, qui finit par imposer son agenda. Et donc, je voudrais qu'on parle d'autre chose, c'est-à-dire que non pas qu'on analyse les fake news, mais qu'on analyse ce qu'il y a dans le traité.
Je crois que c'est ce qu'on doit
aux citoyens.
Natacha.
Je suis d'accord, je suis d'accord avec une partie de cela. Je pense en effet qu'il faut analyser ce traité. Et je crois que on a un cas d'école, là, avec cette histoire de traité d'Aix-la-Chapelle. C'est presque un principe de je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est-à-dire qu'on a le Rassemblement National, Nicolas Dupont-Aignan, donc qui nous explique qu'on va vendre l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. C'est-à-dire, en effet, quelque chose totalement faux, caricatural, idiot, délirant, tout ce qu'on veut. D'accord. Et du coup, ça permet mécaniquement de passer 2 semaines à répondre à cela et du coup à dire quiconque s'interroge sur ce traité, bah finalement, joue le même rôle que le Rassemblement National ou Nicolas Dupont-Aignan. C'est-à-dire qu'on voit même de la part d'éditorialistes qui sont, on va dire, des gens raisonnables normalement, cette espèce d'assimilation complète. Or, allons au fond des choses, on peut critiquer ce traité sans raconter n'importe quoi, sans être dans le complotisme le plus idiot. En revanche, refuser de débattre de ce traité en expliquant que, d'abord, il n'engage à rien, il est totalement symbolique, mais qu'en même temps, on aurait tort de le critiquer parce que ce serait germanophobe, là, ça devient compliqué. Donc, est-ce qu'on peut discuter raisonnablement? C'est tout simplement cela qu'il faudrait faire.
Gilles, faisons-le. Et si on... Alors, l'analyse que moi je fais de ce traité, c'est que on avance d'un demi-pas là où il faudrait faire un grand saut. Il y a quelques évolutions relativement mineures. Alors on peut améliorer la coopération transfrontalière, on peut prôner, et si on le fait c'est bien, une convergence sur les questions économiques, sur les questions diplomatiques, mais sur ce qui tenait vraiment à cœur de tous ceux qui souhaitent à la fois un rapprochement du couple, du moteur franco-allemand pour relancer l'Europe, notamment sur la zone euro, la réalité est extrêmement décevante et il n'y a pas grand-chose dans ce traité de ce point de vue-là. Et je crois que les questions derrière qu'il faut se poser, c'est pourquoi et qu'est-ce qu'on fait ?
Natacha ?
Je pense surtout qu'il faut se souvenir de ce que fut le traité de l'Elysée, puisqu'il est quand même explicitement fait référence à ce traité de l'Elysée. Et on nous explique, dans un paradoxe d'ailleurs, que c'est purement symbolique, mais qu'en même temps, c'est la continuation du traité de l'Elysée qui, lui, a été très important. C'était la réconciliation des deux peuples à un moment où c'était absolument essentiel. C'était un pas historique, le traité de l'Elysée. Et c'était aussi un immense gâchis, dans la mesure où De Gaulle et Adenauer s'étaient mis d'accord sur une vision de l'Europe indépendante, sur une vision de l'Europe centrée autour de ce couple franco-allemand qui allait construire une j'allais dire, une troisième voie, une Europe qui ne serait pas forcément bloquée dans le système atlantiste. Or, au dernier moment, la CDU impose à Adenauer un préambule qui vide de sa substance le traité de l'Élysée en expliquant que, quoi qu'il arrive, que quoi qu'il soit dit dans ce traité, ça rentre dans le cadre, enfin, ça, ce qui s'impose, c'est le cadre des alliances précédentes, donc de l'alliance atlantiste. Et donc, aujourd'hui, ce traité-là, celui d'Aix-la-Chapelle, il est infime à côté de ça. En effet, ça n'est rien du tout, ce sont trois symboles, des choses comme ça. En effet, la coopération transfrontalière, alors on peut discuter de la question de la République une et indivisible et au nom de quoi certains territoires auraient des lois différentes. Il me semble que c'est pas essentiel. En revanche, il s'inscrit dans le besoin absolu pour la France de s'imaginer que l'Union européenne se réduit au couple franco-allemand. Et je pense que c'est une erreur majeure. Parce que l'Allemagne n'a jamais respecté ce couple franco-allemand dans les dernières années.
Comment
Regardez la politique d'Angela Merkel. Quand elle décide unilatéralement de dire qu'il faut arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, on peut être d'accord sur le fond, mais elle le fait en sachant très bien que ça met en difficulté son allié français. Elle s'en fiche complètement. Avant ça, la sortie du nucléaire unilatéral, aucune coopération. Les allers-retours sur les migrants en 2015, aucune coopération. Donc en fait, le couple franco-allemand, il n'existe pas. Mais nous continuons à nous faire croire que l'Europe se réduit à ça. C'est dommage.
Gilles,
c'est une vraie question. Est-ce que la stratégie qui a été la stratégie de la France depuis des décennies, qui est de dire il y a une colonne vertébrale dans l'Union européenne qui est le couple franco-allemand ou le moteur franco-allemand, et que ça ne suffit pas, l'Union européenne ne se réduit pas, et je pense que la France n'a jamais pensé que l'Union européenne se réduisait au couple franco-allemand, mais sans le couple franco-allemand, il ne se passe rien. Moi, je continue de penser que cette stratégie-là est juste, et a fortiori dans ce qu'est l'Europe d'aujourd'hui avec les forces centrifuges qui sont extrêmement puissantes. Le problème, c'est que depuis de nombreuses années, et là, Natacha Polony a raison, le moteur ou le couple franco-allemand fonctionne moins bien. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ? Pendant longtemps, on a pu penser, et on a pu penser à raison, qu'il y avait des divergences d'intérêts fondamentales entre la France et l'Allemagne qui faisaient que c'était une illusion. Peut-être que c'était vrai, sans doute était-ce vrai il y a 10 ans. Je pense que c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui avec le Brexit, avec l'évolution du commerce international, avec l'évolution des États-Unis. Donc si c'est pas une divergence d'intérêts, il peut y avoir des différents d'ordre politique, et je crois que quand on réévaluera le bilan d'Angela Merkel, je pense qu'elle a été une grande politique, qu'elle n'a pas été une grande stratège et qu'elle n'a pas été une européenne audacieuse. Et donc, je crois qu'il faut persévérer, sans doute changer de terrain, mais que la stratégie, d'abord le moteur franco-allemand, sans ça, l'Europe ne progressera pas.
Encore un mot attaché sur le sujet.
Je serai plus brutale, je pense que ce rêve français d'un couple franco-allemand est en train de tuer toute possibilité de réformer l'Union européenne, parce que la France devrait au contraire réintégrer tous ceux qui sont mus par des forces centrifuges en Europe. Il aurait fallu s'appuyer sur l'Espagne, sur le Portugal, mais aussi sur l'Italie pour l'empêcher de dériver, sur la Grèce pour essayer de rééquilibrer face à une Allemagne, et je pense qu'on réévaluera Angela Merkel en effet, face à une Allemagne qui n'a pas des intérêts divergents, qui poursuit uniquement ses propres intérêts, sa politique. La façon dont l'Allemagne est en train de ruiner l'agriculture française, alors qu'il y avait une espèce de partage des tâches implicite à l'Allemagne l'industrie, à la France l'agriculture, est un cas d'école. Nos agriculteurs sont en train de crever de la concurrence allemande. Je pense que tout cela devrait se discuter. L'Allemagne est un pays profondément souverainiste, c'est-à-dire qui joue toute seule.
Un mot, je pense que c'est l'Europe du Sud, la coalition des pays d'Europe du Sud, c'est plus que jamais une chimère, de la même manière que quand on a voulu contourner l'Allemagne par une alliance franco-britannique, c'était aussi une chimère, tout ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que ça marche bien avec l'Allemagne, et c'est là que ça peut marcher.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Et on revient en France avec le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, mais un mouvement qui évolue. On a vu cette semaine qu'une liste Gilets jaunes s'invitait dans le jeu des élections européennes. Une liste qui porte le nom de ralliement d'initiative citoyenne. Et écoutez cet échange pour le moins tendu entre Ingrid Levavasseur, qui va mener cette liste, et Evelyne Libéral, elle aussi Gilets jaunes. C'était sur le plateau de l'émission politique sur France 2 ce jeudi.
C'était pas le moment de créer un parti politique. C'était de faire le buzz. Bah, vous avez gagné, vous avez fait le buzz. Vous êtes une vraie femme politisée. Puis c'est tout. Vous pouvez enlever votre gilet. C'est mort.
On fait comme ce que je venais de dire juste avant. Entre politiciens, on se tire dans les pattes, même dans son propre camp. Donc voilà.
Vous créez un parti politique, vous prenez le risque.
Mais qu'est-ce que vous allez proposer, madame?
Comme non-parti politique.
Qu'est-ce que vous allez proposer?
Eh ben, nous, on va proposer par la suite. Et on attend.
Eh ben, allez-y, proposez.
Échange tendu, et vous avez donc entendu Ingrid Levavasseur qui est critiquée pour plusieurs raisons, mais notamment tout simplement parce qu'elle joue le jeu de la représentation, Natacha.
C'est tout le paradoxe, mais on savait que ça se passerait comme ça. C'est-à-dire qu'en effet, certains gilets jaunes veulent une représentation politique pour perpétuer et, j'allais dire, recanaliser ce mouvement, et d'autres ne le veulent pas parce qu'en effet, ça pose un problème, ce positionnement dans le jeu politique de la part d'un mouvement qui remet en cause cette représentation. Je vous avoue qu'il n'y a pas de bonne solution dans ce cas-là. Il n'y a aucune bonne solution parce que, de toute façon, je pense que le problème ne se joue pas au simple niveau d'une liste européenne pour des élections qui ne vont pas répondre véritablement aux questions qui étaient posées par ce mouvement. Donc, mais c'est la conséquence, en fait, de l'absence de canalisation par les politiques existants de ce mouvement et de l'absence de réponse apportée.
Gilles.
Oui, quand on regarde l'évolution du mouvement des Gilets jaunes sur une période un peu plus longue, disons depuis plusieurs semaines, ça fait pas très longtemps qu'il est là, on voit que c'est un mouvement qui est de plus en plus national. Quand on regarde, Le Monde a fait une excellente enquête sur les 203 principaux groupes Facebook de Gilets jaunes. L'élément le plus intéressant est que, au début de ce mouvement, ce que sont aujourd'hui les trois principaux groupes dont on a beaucoup parlé ici, notamment ceux animés par Éric Drouet d'un côté et par Maxime Nicole de l'autre, au début du mouvement, c'était 20% de la totalité des échanges dans ces différents groupes. Aujourd'hui, c'est 70%. C'est-à-dire qu'il y a une convergence autour de débats qui sont des débats plus nationaux et de quelques groupes. Donc un mouvement qui est plus national et un mouvement qui est de plus en plus fracturé. On l'a vu à plusieurs moments des fractures apparaître et on le voit dans les réactions que vous venez d'évoquer, dans les réactions qui ont été aussi celles et de Maxime Nicole et de Éric Drouet par rapport à ce dépôt de liste. Donc en tout état de cause, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais cette liste ne représentera qu'une partie des Gilets jaunes, notre question
c'est
étant de savoir si ça sera la seule.
Est-ce que vous applaudissez malgré tout au fait que les Gilets jaunes ou une partie des Gilets jaunes s'invitent dans le système de la représentation et de la démocratie représentative ?
Alors oui, au sens où il était important qu'il y ait un débouché. Beaucoup d'entre eux ont refusé de participer par exemple au grand débat. Un certain nombre d'autres, on l'a vu avec le président de la République ce jeudi. On va en parler, y ont participé. Donc il fallait qu'il y ait un débouché. Je ne sais pas où ils vont se situer, mais nous avons, la Fondation Jean Jaurès a publié cette semaine une enquête qui n'est pas une intention de vote, mais qui donne une bonne indication de ce potentiel. La question était, est-ce que vous vous identifiez aux Gilets jaunes? Est-ce que vous dites, je suis Gilet jaune? C'est pas, est-ce que vous avez de la sympathie? Est-ce que vous soutenez? Est-ce que vous vous identifiez? 16% des Français disent, je suis Gilet jaune. Et c'est pas très loin des premières intentions de vote. Donc, oui. Mais j'ai un gros mais, je l'ai depuis le début. Je trouve que beaucoup de ceux qui ont poussé les Gilets jaunes, notamment dans La République En Marche, à déposer une liste jouent les apprentis sorciers. À court terme, ils peuvent en espérer un gain. On voit que ce sont d'abord à la France Insoumise, à Debout la France, au Rassemblement National que la liste des Gilets jaunes prend des voix. À long terme, je trouve ça beaucoup plus inquiétant parce que on crée les bases d'un scénario à l'italienne, d'une convergence qui n'existe pas entre la France Insoumise et le Rassemblement National.
Alors, je ne sais pas si on crée cette convergence dans la mesure où on voit bien que la liste proposée par Ingrid Levavasseur n'incarne pas justement la dimension extrémiste qui peut être profondément dangereuse de la part de certains gilets jaunes. Au contraire, et c'est d'ailleurs ce qui lui est reproché, c'est qu'il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que c'est une frange, j'allais dire, plus modérée des gilets jaunes qui s'expriment là. Donc c'est toute la question de savoir s'il peut y avoir en France un scénario à l'italienne. On a vu des convergences qu'on n'avait jamais vues avant et qui en effet sont inquiétantes. Pour autant, est-ce que ça peut se traduire politiquement dans un pays comme la France avec le système de la Ve République? Je ne suis pas certaine.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
la Ve République et la monarchie présidentielle, Natacha, il y avait évidemment ce jeudi l'arrivée d'Emmanuel Macron qui s'est invité par surprise dans un débat citoyen à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Et voici ce qu'il répondait à un citoyen qui l'interpellait.
Vous savez, je suis pas un héritier. Il y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Si j'étais né avec une petite cuillère dans la bouche ou fils de politicien, vous pourriez me faire la leçon. C'est pas le cas.
3 heures d'échange et c'était l'un des moments forts de cet échange. Gilles Finkelstein, qu'est-ce qu'il faut en retenir?
D'abord que Emmanuel Macron, cette fois-ci, n'a pas dialogué avec des élus, mais directement avec les citoyens. Je crois qu'il y a été très bon. Et qu'il y a en même temps un risque, c'est qu'ils finissent par cannibaliser le débat, que tout le grand débat ne se déroule qu'autour d'Emmanuel Macron, et que plutôt que d'écouter, il ne fait ce que parler. Et donc il faut trouver le bon équilibre. Je pense que c'est très important que le président de la République s'engage dans ce débat. Il l'avait déjà fait, je pense qu'il faut qu'il continue à le faire. Tout ça est une question d'équilibre. Et puis, il faut toujours écouter, pas seulement regarder l'exercice, mais écouter ce qu'il dit. Par exemple, ça fait plusieurs semaines que nous discutons de l'avenir de la suppression de la taxe d'habitation, les 20% de Français qui continuent à la payer. Hier, il a fait quand même une petite annonce à 7 milliards d'euros, disant qu'il ira au bout de cette réforme en concentrant ces 7 milliards sur les 20% les plus riches.
Natacha.
Oui, d'ailleurs, en termes d'annonce, il y a aussi ce fait que, de fait, le glyphosate ne sera pas interdit dans 3 ans. On s'en doutait un peu, puisqu'il y avait eu 1000 précautions pour dire que le glyphosate serait interdit si on trouvait un substitut. Si on ne se donne pas les moyens de penser une agriculture différente, en effet, il n'y a aucune chance qu'on trouve un substitut. Ou alors, ce substitut sera encore pire que le glyphosate. Donc, vous voyez, il se passe des choses, en fait, dans ce débat de la part d'Emmanuel Macron. Je reviens à ce que disait Gilles. D'abord, je suis d'accord qu'il est bon. Il est très bon dans cet exercice-là. Et surtout, on voit qu'en termes de communication, il tire les leçons assez rapidement, puisque le premier débat était assez fermé, avec des maires tout de même trié sur le volet. On lui avait reproché de ne pas être allé à la rencontre des citoyens. On voit que petit à petit, eh bien, il y a adaptation et que finalement, ça donne quelque chose de plus intéressant, où il est un petit peu plus remis en question sur le fond de sa politique. Pour autant, la question de fond n'est pas résolue. Qu'est-ce qui en sortira, mis à part cet exercice de style, mis à part cette façon, en effet, d'aller au contact? Politiquement, est-ce qu'il y a la moindre chance que ça infléchisse sa ligne? La question reste encore posée et c'est bien le problème.
Gilles?
Oui, c'est logique qu'elle le soit encore à ce stade. Disons qu'on en est au début du débat, au début des débats. Et donc, il faut à ce stade lui donner une forme à ce débat, une expression. Et donc, c'est bien qu'Emmanuel Macron y participe.
Est-ce que c'est vraiment un débat d'ailleurs? On appelle ça débat citoyen, celui qui s'est tenu par exemple à Bourg-de-Péage dans la Drôme.
Alors, ceux qui se tiennent depuis une dizaine de jours, il y a eu quand même des centaines et des centaines de débats, des milliers de contributions sur les différents sites internet. Nous-mêmes, la Fondation Jean Jaurès, avons organisé plusieurs débats et je suis sûr que Marianne réfléchit aussi à la manière d'y travailler.
Bien sûr.
Donc, dans le pays, il y a des débats et c'est même un moment qui est un moment assez rare hors période électorale. Avec Emmanuel Macron, écoutez, on peut lui faire beaucoup de critiques, mais un président de la République qui, pendant 3 heures, est face aux citoyens et répond directement à leurs questions, bah, si ça ne s'appelle pas un débat, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Natacha.
Non, c'est vrai, on peut considérer que c'est une forme de débat qui est sensiblement différente de ce qui était censé avoir lieu dans cette grande consultation, à savoir essentiellement que les citoyens reprennent la parole. Tout l'enjeu est là, c'est un enjeu démocratique. À quel moment nous allons pouvoir mettre en place un système qui fasse que les représentants représentent véritablement, c'est-à-dire traduisent la volonté populaire majoritaire. C'est ça la question qui nous est posée. Est-ce que notre système politique actuellement permet cela et jusqu'où faut-il écouter la volonté populaire, puisque certains disent, mais attention, le peuple n'a pas toujours raison en démocratie, ce qui semble quand même, pour moi, assez acrobatique, mais c'est ce qu'on entend de la part de certains commentateurs.
Emmanuel Macron lui-même, d'ailleurs, qui se rappelait qu'il avait été élu au suffrage universel et qui critiquait le principe du référendum au cours de cet échange dans la Drôme, Gilles, avec aussi une chose importante qu'on a entendue dans l'extrait qu'on a diffusé, à savoir qu'il refuse la déconnexion qu'on lui attribue, la déconnexion avec le peuple. C'est quelqu'un qui, le président de la République, raconte son itinéraire comme quelqu'un qui vraiment doit tout à l'ascension républicaine.
Sur son itinéraire, ce n'est pas faux. En revanche, le risque, c'est que maintenant, c'est pas seulement l'itinéraire, c'est pas d'où il vient, c'est où il est. Et le risque, qui n'est pas un risque seulement pour Emmanuel Macron, c'est un risque qu'ont connu tous les présidents de la République depuis de très nombreuses années, c'est que l'Élysée est un lieu qui enferme. Peut-être qu'on en parlera avec Alain Minc, qui a vu beaucoup de présidents de la République, mais c'est quelque chose qui est quand même très frappant. C'est un lieu, malgré tout, de déconnexion. Non seulement de déconnexion avec les Français, mais même de déconnexion avec ses représentants, puisque les liens entre le pouvoir législatif et le président de la République sont très faibles.
Natacha ?
Mais il y a le parcours d'Emmanuel Macron, et en effet, on peut considérer qu'il y a une part de méritocratie républicaine. Il atteint cette grande école qu'est l'ENA. Et puis, il y a aussi le fait, tout de même, que d'abord, on peut se poser la question du rôle de l'ENA aujourd'hui, de la question idéologique qui est derrière, c'est-à-dire l'apprentissage d'une vision unique du monde et de son organisation et de l'organisation économique. Et puis, il y a la question du parcours d'un homme, c'est-à-dire que avoir eu un parcours universitaire prestigieux ne permet pas de connaître le pays, c'est-à-dire ne permet pas de savoir profondément quelles sont les difficultés que rencontrent des petits artisans, des ouvriers, des paysans. Ce n'est pas exactement la même chose.